Jules Verne, Robur le Conquérant. Chapitre 18. Qui termine cette véridique histoire de l'Albatros sans la terminer. Le 29 avril de l'année suivante, 7 mois après le retour si imprévu de Oncle Prudent et de Phil Evans, Philadelphie était tout en mouvement. Rien de politique pour cette fois. Il ne s'agissait ni d'élections ni de meetings. L'aérostat, le Go-Ahead, achevé par les soins du Weldon Institute, allait enfin prendre possession de son élément naturel. Pour un aéronaute, le célèbre Harry W. Tinder, dont le nom a été prononcé au commencement de ce récit, plus un aide aérostier. Pour passager, le président et le secrétaire du Weldon Institute. Ne méritait-il pas un tel honneur? Ne leur appartenait-il pas de venir en personne protester contre tout appareil qui reposerait sur le principe du plus lourd que l'air? Cependant, après 7 mois, ils en étaient encore à parler de leurs aventures. Fricolin lui-même, quelque envie qu'il en eût, n'avait rien dit de l'ingénieur Robur, ni de sa prodigieuse machine. Sans doute, en ballonistes intransigeants qu'ils étaient, Oncle Prudent et Phil Evans ne voulaient pas qu'il fût question d'aéronef ou de tout autre appareil volant. Tant que le ballon, le Go-Ahead, ne tiendrait pas la première place parmi les engins de locomotion aériens, il ne voulait rien admettre des inventions dues aux aviateurs. Il croyait encore. Il voulait croire toujours que le véritable véhicule atmosphérique, c'était l'aérostat, et qu'à lui seul appartenait l'avenir. D'ailleurs, celui dont ils avaient tiré une vengeance si terrible, si juste, à leur sens, celui-là n'existait plus. Aucun de ceux qui l'accompagnaient n'avait pu lui survivre. Le secret de l'Albatros était maintenant enseveli dans les profondeurs du Pacifique. Quant à admettre que l'ingénieur Robur eût eu une retraite, une île de relâche, au milieu de ce vaste océan, ce n'était qu'une hypothèse. En tout cas, les deux collègues se réservaient de décider plus tard s'il ne conviendrait pas de faire quelques recherches à ce sujet. On allait donc enfin procéder à cette grande expérience que le Weldon Institute préparait de si longue date et avec tant de soin. Le Go-Ahead était le type le plus parfait de ce qui avait été inventé jusqu'à cette époque dans l'art aérostatique, ce que sont un inflexible ou un formidable dans l'art naval. Le Go-Ahead possédait toutes les qualités que doit avoir un aérostat. Son volume lui permettait de s'élever aux dernières hauteurs qu'un ballon puisse atteindre. Son imperméabilité de pouvoir se maintenir indéfiniment dans l'atmosphère. Sa solidité de braver toute dilatation de gaz, aussi bien que les violences de la pluie et du vent. Sa capacité de disposer d'une force ascensionnelle assez considérable pour enlever avec tous ses accessoires une machinerie électrique qui devait communiquer à ses propulseurs une puissance de locomotion supérieure à tout ce qui avait été obtenu jusqu'alors. Le Go-Ahead avait une forme allongée, qui faciliterait son déplacement suivant l'horizontale. Sa nacelle, plateforme à peu près semblable à celle du ballon des capitaines Krebs et Renard, emportait tout l'outillage nécessaire aux aérostiers, instruments de physique, câbles, ancres, guide-ropes, etc. De plus, les appareils, piles et accumulateurs qui constituaient sa puissance mécanique. Cette nacelle était munie à l'avant d'une hélice et à l'arrière d'une hélice et d'un gouvernail. Mais probablement, le rendement des machines du Go-Ahead devait être très inférieur au rendement des appareils de l'Albatros. Le Go-Ahead avait été transporté après son gonflement dans la clairière de Fairmount Park, à la place même où s'était reposé l'aéronef pendant quelques heures. Inutile de dire que sa puissance ascensionnelle lui était fournie par le plus léger de tous les corps gazeux. Le gaz d'éclairage ne possède qu'une force de 700 grammes environ par mètre cube, ce qui ne donne qu'une insuffisante rupture d'équilibre avec l'air ambiant. Mais l'hydrogène possède une force d'ascension qui peut être estimée à 1100 grammes. Cet hydrogène pur, préparé d'après les procédés et dans les appareils spéciaux du célèbre Henri Giffard, emplissait l'énorme ballon. Donc, puisque la capacité du Go-Ahead mesurait 40 000 mètres cubes, la puissance ascensionnelle de son gaz était 40 000 fois multipliée par 1100, soit de 40 000 kg. Dans cette matinée du 29 avril, tout était prêt. Dès 11 heures, l'énorme aérostat se balançait à quelques pieds du sol, prêt à s'élever au milieu des airs. Temps admirable et fait exprès pour cette importante expédition. En somme, peut-être aurait-il mieux valu que la brise eût été plus forte, ce qui aurait rendu l'épreuve plus concluante. En effet, on n'a jamais mis en doute qu'un ballon pût être dirigé dans un air calme. Mais au milieu d'une atmosphère en mouvement, c'est autre chose. Et c'est dans ces conditions que les expériences doivent être tentées. Enfin, il n'y avait pas de vent, ni apparence qu'il dût se lever. Ce jour-là, par extraordinaire, l'Amérique du Nord ne se disposait point à envoyer à l'Europe occidentale une des bonnes tempêtes de son inépuisable réserve. Et jamais jour n'eût été mieux choisi pour le succès d'une expérience aéronautique. Faut-il parler de la foule immense réunie dans Fairmount Park, des nombreux trains qui avaient versé sur la capitale de la Pennsylvanie, les curieux de tous les États environnants, de la suspension de la vie industrielle et commerciale, qui permettait à tous de venir assister à ce spectacle. Patrons, employés, ouvriers, hommes, femmes, vieillards, enfants, membres du Congrès, représentants de l'armée, magistrats, reporters, indigènes blancs et noirs entassés dans la vaste clairière. Faut-il décrire les émotions bruyantes de ce populaire, ces mouvements inexplicables, ces poussées soudaines qui rendaient la masse palpitante et houleuse? Faut-il chiffrer les hip-hip-hip qui éclatèrent de toutes parts comme des détonations de boîtes d'artifice lorsque Oncle Prudent et Phil Evans parurent sur la plateforme, au-dessous de l'aérostat pavoisé aux couleurs américaines? Faut-il avouer enfin que le plus grand nombre des curieux n'était peut-être pas venu pour voir le Go Ahead, mais pour contempler ces deux hommes extraordinaires que l'ancien monde enviait au nouveau? Pourquoi deux et non trois? Pourquoi pas Fricolin? C'est que Fricolin trouvait que la campagne de l'Albatros suffisait à sa célébrité. Il avait décliné l'honneur d'accompagner son maître. Il n'eut donc point sa part des acclamations frénétiques qui accueillirent le président et le secrétaire du Weldon Institute. Il va sans dire que de tous les membres de l'illustre assemblée, pas un ne manquait aux places réservées en dedans des cordes et piquets qui formaient enceinte au milieu de la clairière. Là étaient Truck Milnor, Bat T. Finn, William T. Forbes, ayant au bras ses deux filles, Miss Doll et Miss Matt. Tous étaient venus affirmer par leur présence que rien ne pourrait jamais séparer les partisans du plus léger que l'air. Vers 11h20, un coup de canon annonça la fin des derniers préparatifs. Le Go-Ahead n'attendait plus qu'un signal pour partir. Un second coup de canon retentit à 11h25. Le Go-Ahead, maintenu par ses cordes de filet, s'éleva d'une quinzaine de mètres au-dessus de la clairière. De cette façon, la plateforme dominait cette foule, si profondément émue. Oncle Prudent et Phil Evans, debout à l'avant, mirent alors la main gauche sur leur poitrine, ce qui signifiait qu'ils étaient de cœur avec toute l'assistance. Puis ils tendirent la main droite vers le zénith, ce qui signifiait que le plus grand des ballons connus jusqu'à ce jour allait enfin prendre possession du domaine supraterrestre. 100 000 mains se portèrent alors sur 100 000 poitrines, et 100 000 autres se dressèrent vers le ciel. Un troisième coup de canon éclata à 11h30. « Lâchez tout !» cria Oncle Prudent, qui lança la formule sacramentielle. Et le go-ahead s'éleva majestueusement. Adverbe consacré par l'usage dans les descriptions aérostatiques. En vérité, c'était un spectacle superbe. On eût dit d'un vaisseau qui vient de quitter son chantier de construction. Et n'était-ce pas un vaisseau lancé sur la mer aérienne? Le go-ahead monta suivant une rigoureuse verticale, preuve du calme absolu de l'atmosphère, et il s'arrêta à une altitude de 250 mètres. Là commencèrent les manœuvres de déplacement horizontal. Le go-ahead, poussé par ses deux hélices, alla au-devant du soleil, avec une vitesse d'une dizaine de mètres à la seconde. C'est la vitesse de la baleine franche au milieu des couches liquides. Et il ne messied pas de le comparer à cette géante des mers boréales, puisqu'il avait aussi la forme de cet énorme cétacé. Une nouvelle salve de hurrahs monta vers les habiles aéronautes. Puis, sous l'action de son gouvernail, le Go-Ahead se livra à toutes les évolutions circulaires, obliques, rectilignes, que lui imprimait la main du timonier. Il tourna dans un cercle restreint, il marcha en avant, en arrière, de façon à convaincre les plus réfractaires à la direction des ballons, s'il y en avait eu. S'il y en avait eu, on les aurait écharpés. Mais pourquoi le vent manquait-il à cette magnifique expérience? Ce fut regrettable. On aurait vu sans doute le Go-Ahead exécuter, sans une hésitation, tous les mouvements, soit en déviant par l'oblique comme un navire à voile qui marche au plus près, soit en remontant les courants de l'air comme un navire à vapeur. En ce moment, l'aérostat se releva dans l'espace de quelques centaines de mètres. On comprit la manœuvre. Oncle Prudent et ses compagnons allaient tenter de trouver un courant quelconque dans de plus hautes zones, afin de compléter l'épreuve. Du reste, un système de ballonneaux intérieurs, analogue à la vessie natatoire des poissons, et dans lesquels on pouvait introduire une certaine quantité d'air au moyen de pompes, lui permettait de se déplacer verticalement. Sans jamais jeter de lest pour monter, ni perdre de gaz pour descendre, il était en mesure de s'élever ou de s'abaisser dans l'atmosphère, au gré de l'aéronaute. Toutefois, il avait été muni d'une soupape à son hémisphère supérieur, pour le cas où il eût été obligé à quelque rapide descente. C'était en somme l'application de systèmes déjà connus, mais poussés à un extrême degré de perfection. Le Go-Ahead s'élevait donc en suivant une ligne verticale. Ses énormes dimensions diminuaient graduellement au regard, comme par un effet d'optique. Ce n'est pas ce qu'il y a de moins curieux pour les spectateurs, dont les vertèbres du cou se brisent à regarder en l'air. L'énorme baleine devenait peu à peu un marsouin, en attendant qu'elle fût réduite à l'état de simple goujon. Le mouvement ascensionnel ne cessant pas, le Go-Ahead atteignit une altitude de 4000 pieds. Mais dans ce ciel si pur, sans une traînée de brume, il resta constamment visible. Cependant, il se maintenait toujours au-dessus de la clairière, comme s'il eût été attaché par des fils divergents. Une immense cloche eût emprisonné l'atmosphère qu'elle n'aurait pas été plus immobilisée. Pas un souffle de vent, ni à cette hauteur, ni à aucune autre. L'aérostat évoluait sans rencontrer aucune résistance, très rapetissé par l'éloignement, comme si on l'eût regardé par le petit bout d'une lorgnette. Tout à coup, un cri s'éleva dans la foule, un cri suivi de 100 000 autres. Tous les bras se tendirent vers un point de l'horizon. Ce point, c'était le nord-ouest. Là, dans le profond azur, est apparu un corps mobile qui s'approche et grandit. Est-ce un oiseau battant des ailes les hautes couches de l'espace? Est-ce un bolide dont la trajectoire coupe obliquement l'atmosphère? En tout cas, il est doué d'une vitesse excessive, et il ne peut tarder à passer au-dessus de la foule. Un soupçon qui se communique électriquement à tous les cerveaux court sur toute la clairière. Mais il semble que le Go-Ahead a vu cet étrange objet. Assurément, il a senti qu'un danger le menace, car sa vitesse est augmentée, et il a pris chasse vers l'est. Oui, la foule a compris. Un nom jeté par un des membres du Walden Institute a été répété par 100 000 bouches. L'albatros ! L'albatros ! C'est l'albatros, en effet. C'est Robur qui reparaît dans les hauteurs du ciel. C'est lui qui, semblable à un gigantesque oiseau de proie, va fondre sur le Go-Ahead. Et pourtant, 9 mois avant, l'aéronef brisé par l'explosion, ses hélices rompues, sa plateforme coupée en deux, a été anéantie. Sans le sang-froid prodigieux de l'ingénieur qui modifia le sens giratoire du propulseur de l'avant et le changea en une hélice suspensive, tout le personnel de l'Albatros eût été asphyxié par la rapidité même de la chute. Mais s'ils avaient pu échapper à l'asphyxie, comment lui et les siens ne s'étaient-ils pas noyés dans les eaux du Pacifique? c'est que les débris de sa plateforme, les ailes des propulseurs, les cloisons des roufles, tout ce qui restait de l'albatros constituait une épave. Si l'oiseau blessé était tombé dans les flots, ses ailes le soutinrent encore sur les lames. Pendant quelques heures, Robur et ses hommes restèrent d'abord sur cette épave, puis dans le canot de caoutchouc qu'ils avaient retrouvé à la surface de l'océan. La Providence, pour ceux qui croient à l'intervention divine dans les choses humaines, le hasard, pour ceux qui ont la faiblesse de ne pas croire à la Providence, vint au secours des naufragés. Un navire les aperçut, quelques heures après le lever du soleil. Ce navire mit une embarcation à la mer. Il recueillit non seulement Robur et ses compagnons, mais aussi les débris flottants de l'aéronef. L'ingénieur se contenta de dire que son bâtiment avait péri dans une collision, et son incognito fut respecté. Ce navire était un trois-mâts anglais, le Two Friends, de Liverpool. Il se dirigea vers Melbourne, où il arriva quelques jours après. On était en Australie, mais encore loin de l'île X, à laquelle il fallait revenir au plus tôt. Dans les débris du roufle de l'arrière, l'ingénieur avait pu retrouver une somme assez considérable qui lui permit de subvenir à tous les besoins de ses compagnons, sans rien demander à personne. Peu de temps après son arrivée à Melbourne, il fit l'acquisition d'une petite goélette d'une centaine de tonneaux. Et ce fut ainsi que Robur, qui ne connaissait rien en marine, regagna l'île X. Et alors il n'eut plus qu'une idée fixe, une obsession, se venger. Mais pour se venger, il fallait faire un second albatros. Besogne facile, après tout, pour celui qui avait construit le premier. On utilisa ce qui pouvait servir de l'ancien aéronef, ses propulseurs, entre autres engins, qui avaient été embarqués avec tous les débris sur la goélette. On refit le mécanisme avec de nouvelles piles et de nouveaux accumulateurs. Bref, en moins de 8 mois, tout le travail était terminé, et un nouvel albatros, identique à celui que l'explosion avait détruit, aussi puissant, aussi rapide, fut prêt à prendre l'air. Dire qu'il y avait le même équipage, que cet équipage était enragé contre Oncle Prudent et Phil Evans en particulier, et contre tout le Weldon Institute en général, cela se comprend, sans qu'il convienne d'y insister. L'Albatros quitta l'île X dès les premiers jours d'avril. Pendant cette traversée aérienne, il ne voulut pas que son passage pût être signalé en aucun point de la Terre. Aussi voyageait-il presque toujours entre les nuages. Arrivé au-dessus de l'Amérique du Nord, en une portion déserte du Far West, il atterrit. Là, l'ingénieur, gardant le plus profond incognito, apprit ce qui devait lui faire le plus de plaisir d'apprendre. C'est que le Weldon Institute était prêt à commencer ses expériences. C'est que le Go Ahead, monté par Oncle Prudent et Phil Evans, allait partir de Philadelphie à la date du 29 avril. Quelle occasion pour satisfaire cette vengeance qui tenait au cœur de Robur et de tous les siens. Vengeance terrible à laquelle ne pourrait échapper le Go Ahead. Vengeance publique, qui prouverait en même temps la supériorité de l'aéronef sur tous les aérostats et autres appareils de ce genre. Et voilà pourquoi ce jour-là, comme un vautour qui se précipite du haut des airs, l'aéronef apparaissait au-dessus de Fairmont Park. Oui, c'était l'albatros, facile à reconnaître, même de tous ceux qui ne l'avaient jamais vu. Le go-ahead fuyait toujours. Mais il comprit bientôt qu'il ne pourrait jamais échapper par une fuite horizontale. Aussi, son salut le chercha-t-il par une fuite verticale, non en se rapprochant du sol, car l'aéronef aurait pu lui barrer la route, mais en s'élevant dans l'air, en allant dans une zone où il ne pourrait peut-être pas être atteint. C'était très audacieux, en même temps très logique. Cependant, l'albatros commençait à s'élever avec lui. Bien plus petit que le go-ahead, c'était l'espadon à la poursuite de la baleine qu'il perce de son dard. C'était le torpilleur courant sur le cuirassé qu'il va faire sauter d'un seul coup. On le vit bien, et avec quelle angoisse. En quelques instants, l'aérostat eut atteint 5 000 mètres de hauteur. L'albatros l'avait suivi dans son mouvement ascensionnel, il évoluait sur ses flancs. Il l'enserrait dans un cercle dont le rayon diminuait à chaque tour. Il pouvait l'anéantir d'un bond, en crevant sa fragile enveloppe. Alors oncle Prudent et ses compagnons eussent été broyés dans une effroyable chute. Le public, muet d'horreur, haletant, était saisi de cette sorte d'épouvante qui oppresse la poitrine, qui prend aux jambes quand on voit tomber quelqu'un d'une grande hauteur. Un combat aérien se préparait. Combat où ne s'offraient même pas les chances de salut d'un combat naval. Le premier de ce genre, mais qui ne sera pas le dernier sans doute, puisque le progrès est une des lois de ce monde. Et si le Go-Ahead portait à son cercle équatorial les couleurs américaines, l'Albatros avait arboré son pavillon, l'étamine étoilée avec le soleil d'or de Robur le Conquérant. Le Go-Ahead voulait alors essayer de distancer son ennemi en s'élevant plus haut encore. Il se débarrassa du lest qu'il avait en réserve. Il fit un nouveau bond de 1000 mètres. Ce n'était plus alors qu'un bond dans l'espace. L'Albatros, qui le suivait toujours en imprimant à ses hélices leur maximum de rotation, était devenu invisible. Soudain, un cri de terreur s'éleva du sol. Le Go-Ahead grossissait à vue d'œil, tandis que l'aéronef reparaissait en s'abaissant avec lui. Cette fois, c'était une chute. Le gaz, trop dilaté dans les hautes zones, avait crevé l'enveloppe. Et, à demi dégonflé, le ballon tombait assez rapidement. Mais l'aéronef, modérant ses hélices suspensives, s'abaissait d'une vitesse égale. Il rejoignit le Go-Ahead lorsqu'il n'était plus qu'à 1200 mètres du sol et s'en approcha bord à bord. Robur voulait-il donc l'achever? Non. Il voulait secourir. Il voulait sauver son équipage. Et telle fut l'habileté de sa manœuvre que l'aéronaute et son aide purent s'élancer sur la plateforme de l'aéronef. Oncle Prudent et Phil Evans allaient-ils donc refuser les secours de Robur? Refuser d'être sauvés par lui? Ils en étaient bien capables. Mais les gens de l'ingénieur se jetèrent sur eux, et par force, les firent passer du Go-Ahead à l'Albatros. Puis l'aéronef se dégagea, et demeura stationnaire pendant que le ballon, entièrement vide de gaz, tombait sur les arbres de la clairière, où il resta suspendu comme une gigantesque loque. Un effroyable silence régnait à terre. Il semblait que la vie eût été suspendue dans toutes les poitrines. Bien des yeux s'étaient fermés pour ne rien voir de la suprême catastrophe. Oncle Prudent et Phil Evans étaient donc redevenus les prisonniers de l'ingénieur Robur, puisqu'il les avait repris. Allait-il les entraîner de nouveau dans l'espace, là où il était impossible de le suivre? On pouvait le croire. Cependant, au lieu de remonter dans les airs, l'Albatros continuait de s'abaisser vers le sol. Voulait-il atterrir? On le pensa, et la foule s'écarta pour lui faire place au milieu de la clairière. L'émotion était portée à son maximum d'intensité. L'Albatros s'arrêta à 2 mètres de terre. Alors, au milieu du profond silence, la voix de l'ingénieur se fit entendre. « Citoyens des États-Unis, » dit-il, « le président et le secrétaire du Weldon Institute sont de nouveau en mon pouvoir. En les gardant, je ne ferai qu'user de mon droit de représailles. Mais à la passion allumée dans leur âme, par le succès de l'Albatros, j'ai compris que l'état des esprits n'était pas prêt pour l'importante révolution que la conquête de l'air doit amener un jour. Oncle Prudent et Phil Evans, vous êtes libres. » Le président, le secrétaire du Weldon Institute, l'aéronaute et son aide n'eurent qu'à sauter pour prendre terre. L'Albatros remonta aussitôt d'une 10aine de mètres au-dessus de la foule. Puis, Robur continuant. « Citoyens des États-Unis, » dit-il, « mon expérience est faite. Mais mon avis est dès à présent qu'il ne faut rien prématurer, pas même le progrès. La science ne doit pas devancer les mœurs. Ce sont des évolutions, non des révolutions qu'il convient de faire. En un mot, il faut n'arriver qu'à son heure. J'arriverai trop tôt aujourd'hui, pour avoir raison des intérêts contradictoires et divisés. Les nations ne sont pas encore mûres pour l'union. Je pars donc, et j'emporte mon secret avec moi. Mais il ne sera pas perdu pour l'humanité. Il lui appartiendra le jour où elle sera assez instruite pour en tirer profit, et assez sage pour n'en jamais abuser. Salut, citoyens des États-Unis. Salut. Et l'Albatros, battant l'air de ses 74 hélices, emporté par ses deux propulseurs poussés à outrance, disparut vers l'est au milieu d'une tempête de hurrahs, qui cette fois était admiratif. Les deux collègues, profondément humiliés, ainsi que tout le Walden Institute en leur personne, firent la seule chose qu'il y eut à faire. Ils s'en retournèrent chez eux, tandis que la foule, par un revirement subit, était prête à les saluer de ses plus vifs sarcasmes, juste à cette heure. Et maintenant toujours cette question. Qu'est-ce que ce Robur? Le saura-t-on jamais? On le sait aujourd'hui. Robur, c'est la science future. Celle de demain, peut-être. C'est la réserve certaine de l'avenir. Quant à l'Albatros, voyage-t-il encore à travers cette atmosphère terrestre, au milieu de ce domaine que nul ne peut lui ravir? Il n'est pas permis d'en douter. Robur le conquérant reparaîtra-t-il un jour ainsi qu'il l'a annoncé? Oui, il viendra livrer le secret d'une invention qui peut modifier les conditions sociales et politiques du monde. Quant à l'avenir de la locomotion aérienne, il appartient à l'aéronef, non à l'aérostat. C'est aux Albatros qu'est définitivement réservée la conquête de l'air. Fin de Robur le Conquérant.